Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Irma, José, les Caraïbes et la Floride, toujours dans l'épreuve ce midi. Nous ferons le point sur la trajectoire de ces deux ouragans avec Camille Marigaud au début de ce journal. Ouragan dont la puissance ne décline pas avec des évacuations en cours pour les populations. Et puis focus sur la petite île franco-néerlandaise de Saint-Martin, dramatiquement touchée par les pluies et les vents violents cette semaine. Les sols sont encore gorgés d'eau. Le spécialiste des cyclones, Franck Roux, va nous dire quelles peuvent être les conséquences du nouvel ouragan José attendu d'ici ce soir. C'est un point délicat du processus de paix en Colombie, la vérité et la justice pour les proches des victimes de la guérilla des FARC. Le pape François, qui poursuit sa visite dans le pays, a insisté sur ce sujet hier soir. Reportage de notre envoyée spéciale Mathilde Imberti. Nous irons également à Londres où un cortège contre le Brexit aux sensibilités très diverses est en train de se rassembler. Antoine Gignot sera en direct. En France, Marine Le Pen fait sa rentrée politique dans le village de Braché, Christine Moncla est sur place. Elle va nous dire si la présidente du Front National a bien repris son costume de chef de parti. Enfin, à 12h40, le nouveau rendez-vous de Marie Viennot et sa bulle économique. Les Caraïbes et la Floride, toujours en proie aux catastrophes naturelles ce midi. Deux ouragans sont toujours en train de sévir. José, qui devrait frapper dans la journée Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous allons y revenir. Deux îles qui ont déjà été très touchées par le passage d'Irma. Irma, dont la puissance est remontée en catégorie 5, le plus haut niveau. Et ouragan qui a fait au moins 19 morts sur son passage depuis le début de semaine. Le cyclone poursuit sa course actuellement vers le continent américain. Bonjour Camille Marigaud.
Bonjour.
5 600 000 personnes sont en train d'évacuer le littoral de la Floride où le cyclone est attendu en fin d'après-midi.
Les autorités sont formelles. Quiconque refuse de quitter le littoral risque de mourir. Une tempête catastrophique comme la Floride n'en a jamais connue auparavant, selon le gouverneur de l'État. Irma est en train de quitter Cuba où 1 000 000 de personnes ont été évacuées. L'ouragan va passer par l'archipel de Keys entre La Havane et Miami. Des vents de plus de 240 km/h sont annoncés. En Floride, l'ordre d'évacuation a déjà été donné à au moins 1 000 000 de personnes sur d'autres zones littorales de Floride et dans l'État de Géorgie. Conséquence hier, des milliers d'automobilistes étaient bloqués sur deux autoroutes qui longent les côtes du Sud. Et ça ne s'arrête pas là. Après la Floride, Irma devrait remonter vers la Géorgie et la Caroline du Sud.
Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont également toujours en vigilance rouge ce midi. L'ouragan José est attendu en fin d'après-midi. Ouragan qui est en catégorie 4 sur 5 actuellement. Actuellement, les secours s'activent à Saint-Martin en particulier, qui devraient être plus concernés par les vents violents.
9 centres vont d'ailleurs être ouverts sur l'île pour accueillir environ 1 600 personnes pendant le passage de José, annonce de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, ce matin. Plus de 1 000 secouristes militaires et renforts sont déjà sur place. L'intensité du deuxième ouragan qui va passer à une centaine de kilomètres des deux îles devrait être moins forte que celle d'Irma, des vents d'environ 150 km/h. Mais la grande crainte, ce sont les très fortes pluies attendues dans la foulée. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont déjà presque entièrement détruites. Beaucoup d'habitants ne reçoivent plus aucune communication extérieure. Une course contre la montre donc pour les secours basés en Guadeloupe avant l'assaut de José, avec d'abord le risque sanitaire et l'urgence du ravitaillement en eau potable. Menace sécuritaire aussi, beaucoup de témoignages parle de pillage sur place. La population comme piégée donc. Pour l'instant, environ 250 personnes ont pu être évacuées de Saint-Martin par avion sur les milliers qui se pressaient à l'aéroport hier.
Merci Camille Marigaud pour ce point sur la trajectoire des cyclones ainsi que les conséquences pour les populations. L'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié ce matin au journal officiel pour les deux îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le coût des dommages à cette heure s'élève à 1 milliard 200 millions d'euros. Selon la Caisse centrale de réassurance spécialisée dans les catastrophes naturelles. À Saint-Martin, 60% des maisons sont inhabitables, ce qui pourrait s'aggraver avec l'arrivée de José sur des sols déjà très humides, comme l'explique Franck Roux. Il est enseignant-chercheur au laboratoire d'aérologie à l'Université de Toulouse et spécialiste des cyclones.
Sur les terres émergées, le fait qu'un premier cyclone amène des précipitations peut avoir différents types d'impacts. Le premier, c'est que du coup, le sol va être humide et contrairement à ce qui se passe à une surface sèche, le vent qui frotte à la surface de ce sol peut récupérer de l'humidité. Ce qui fait qu'un cyclone passant sur une zone humide va s'atténuer moins vite qu'un cyclone qui arrive sur une zone sèche. et donc peut avoir une activité qui va continuer à être intense, même à l'intérieur des terres. Et puis deuxièmement, le fait qu'un premier cyclone ait amené des précipitations va saturer le sol en humidité, et il sera ensuite plus difficile à cette surface d'évacuer l'eau par infiltration, puisque le sol sera saturé, et donc on court le risque d'avoir soit une stagnation de l'eau avec des problèmes d'inondation, soit des ruissellements forts avec éventuellement des cas de glissement de terrain ou autre chose dans ce genre-là.
Des propos recueillis par Mathilde Dehimy. Le pape poursuit son périple en Colombie. Il est aujourd'hui à Medellín où il doit célébrer une messe en plein air. Hier, François était à Villavicencio, à 70 km de Bogota, la capitale. Un temps fort de sa visite, il a notamment réclamé vérité et justice pour les victimes de la guerre civile. Guerre qui a fait 250 000 morts et des millions de déplacés. Le pays s'achemine vers la paix avec la signature l'an dernier d'un accord historique avec la guérilla des FARC. Mais cette paix sera fragile sans justice, a estimé le pape, qui a rencontré des victimes et d'anciens révolutionnaires. C'est un reportage de notre envoyée spéciale, Mathilde Imberti.
À l'invitation du pape François, victimes et bourreaux se donnent l'accolade. Dans l'atmosphère lourde et humide d'un grand hangar aux portes de l'Amazonie, on pleure et on prie pour la réconciliation, indispensable selon Maria, une victime. Les FARC ont massacré ma famille, explique-t-elle. Mes deux parents, mes frères, ma petite sœur de 6 ans. Je suis disposée à les pardonner parce que je ne veux pas que mes descendants revivent les mêmes horreurs que moi. Les horreurs de la guerre civile défilent avec le témoignage d'un ancien des FARC enrôlé à l'âge de 16 ans, d'une mère dont le fils a été torturé mais qui a pardonné l'auteur, une vérité à laquelle il faut faire face, estime le pape.
Il est indispensable aussi d'assumer la vérité. La vérité est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde. Ensemble, elles sont essentielles pour construire la paix.
Sandra acquiesce aux mots du pape François. Il y a 10 ans, elle était séquestrée par les paramilitaires, sa famille expulsée de ses terres.
Oui, bien sûr, nous, les victimes de la guerre, nous espérons que la justice spéciale pour la paix sera effective.
Le gouvernement qui a su signer les accords de paix va maintenant devoir nous apporter la justice, conclut cette victime.
Reportage de notre envoyée spéciale Mathilde Imberti. Les Britanniques doivent-ils se résigner au Brexit ? Eh bien non, estiment les opposants à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils se réunissent en ce moment même à Londres pour une grande manifestation. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant permanent de France Culture en direct de Londres, vous suivez cet événement qui rassemble différentes sensibilités politiques.
Absolument, avec une petite vague bleue qui se rassemble le long des barrières de Hyde Park, des centaines de drapeaux européens. Le cortège va défiler jusqu'au Parlement cet après-midi. Il y aura ensuite des discours avec l'intervention de plusieurs artistes et musiciens comme l'activiste Bob Geldof, la dessinatrice de mode Catherine Hamnett et puis des scientifiques comme Mike Galworthy qui dirige le groupe Les Scientifiques pour l'Europe et qui poste régulièrement des vidéos sur Internet, vidéos qui ont été vues 8 millions de fois l'an dernier. Dans le cortège, on trouve aussi des prêtres de l'abbaye de Westminster, des représentants des 3 millions d'expatriés, des Allemands, des Français qui vivent au Royaume-Uni. Il y a aussi des Gallois, des Irlandais et puis des députés de tous les bords, travaillistes, libéraux-démocrates, mais également des conservateurs comme Patience Whitcroft qui siège aussi au conseil d'administration du Financial Times. Les organisateurs de cette marche disent qu'ils attendent plus de monde que lors du précédent rassemblement au mois de mars dernier où plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la rue. À l'époque, le gouvernement n'avait pas changé d'un pouce de position. Mais aujourd'hui, depuis les élections législatives anticipées, Theresa May est en difficulté. Le gouvernement n'a pas l'intention de faire machine arrière, mais ici, tous espèrent qu'il y aura un infléchissement de la position sur le Brexit.
Merci Antoine Gignot pour vos explications en direct de Londres. En France, Marine Le Pen fait sa rentrée politique en ce moment même et pour ses retrouvailles avec les militants du Front National, elle a choisi le village de Braché, solide fief frontiste de 55 habitants. Bonjour Christine Moncla.
Bonjour Anne.
La présidente du Front National en retrait du paysage politique cet été donne-t-elle les signes de vouloir reprendre son rôle de chef de parti ?
Oui, une chef en convalescence tout de même qui doit reconnaître qu'elle revient avec une grande détermination aujourd'hui, sous-entendu qu'elle était donc bien partie pour digérer sa défaite. Alors pour le leadership définitif du Front National, il faudra attendre évidemment le résultat du congrès au mois de mars, mais à ce jour, malgré les tiraillements, la guerre interne avec Florian Philippot et ses amis, c'est quand même tout de même bien elle qui dirige le mouvement, qui dirige aussi sa refondation, elle l'organise, elle essaye de la contrôler de A à Z avec ce slogan d'avant-congrès qu'elle vient de dévoiler ici, en avant pour un nouveau front. Marine Le Pen tente aussi en cette rentrée de reprendre son rôle d'opposante numéro un au pouvoir, opposante qu'elle fut au moins en tant que finaliste de la présidentielle, et ce rôle lui a été confisqué depuis le début de l'été par la France Insoumise, cible de beaucoup de ses attaques. La France Insoumise qu'elle qualifie d'amas d'islamo-trotskiste. Le Front National est la seule antithèse totale au macronisme, dit-elle, le macronisme qui est un parti des riches, tandis que les Républicains sont pour elle des sous-sarkozistes. Mais pourtant, malgré une certaine verve et puis certaines formules bien tournées à la Le Pen, eh bien, quelque chose est cassé, on le sent un peu à l'image du temps. Il pleut ici, il fait froid à Brachet. Il y a 300 à 400 personnes qui sont réunies sur la place du village. On est loin du Brachet 2016 de l'année dernière, sous le soleil et triomphant. C'était évidemment il y a un an, avant l'accident industriel de la présidentielle et de ce débat raté qui continue de dégrader son image et sa crédibilité auprès des militants eux-mêmes. Elle entame d'ailleurs à leur intention une grande tournée des fédérations qui l'emmènera à travers toute la France pendant 12 semaines.
Merci Christine Moncla et merci à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques.